Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Catégorie est sur l'interprétation réunit les deux premiers traités traditionnellement placés au début de l'Organon, ensemble des écrits logiques attribués à Aristote. Il ne propose ni une doctrine morale, ni une métaphysique systématique. Au sens moderne, il examine les conditions élémentaires selon lesquelles les choses peuvent être dites, pensées et affirmées. Les catégories étudient les termes simples et les principaux modes de prédication, notamment la substance, la quantité, la qualité et la relation. Sur l'interprétation, se déplace vers les énoncés formés de plusieurs termes, leurs oppositions, leur vérité ou leur fausseté, ainsi que la question des énoncés portant sur le futur. Cette édition de poche, accompagnée d'une introduction, de notes, d'une bibliographie et d'un index, offre un accès guidé à des textes brefs mais particulièrement denses. Son but est de rendre intelligible une étape fondatrice de la logique occidentale, à la frontière du langage, de la connaissance et de la réalité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les 10 catégories comme répertoire des manières de dire ce qui est. Les catégories partent d'une question décisive: de quelle manière un terme peut-il être attribué à une chose? Aristote distingue 10 grandes catégories, parmi lesquelles la substance, la quantité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l'action et la passion. Cette liste ne doit pas être comprise comme un simple classement encyclopédique des objets du monde. Elle sert à discerner différents types de prédicats et à empêcher que des propriétés hétérogènes soient confondues dans le raisonnement. Dire que Socrate est un homme, qu'il est grand, qu'il se trouve au marché ou qu'il agit ne répond pas à une seule et même question. Dans le premier cas, on indique ce qu'il est. Dans les autres, on précise une détermination qui lui appartient ou une situation dans laquelle il se trouve. La réflexion est donc à la fois grammaticale, logique et ontologique. Elle observe les formes du discours pour élucider les dépendances entre ce qui existe et ce qui peut en être dit. Cette architecture a marqué durablement les débats antiques, médiévaux et modernes sur la prédication. Le lecteur y découvre que la précision conceptuelle commence par la capacité de distinguer le sujet dont on parle des multiples façons de le qualifier. Deuxièmement, la substance première comme sujet concret de la prédication. La distinction entre substance première et substance seconde constitue le pivot des catégories. Les substances premières sont les individus concrets, tels un homme particulier ou un cheval particulier. Elles sont premières parce qu'elles existent comme sujet, les autres déterminations se disent d'eux ou existent en elles, tandis qu'elles ne se disent pas elles-mêmes d'un sujet plus fondamental. Les espèces et les genres, comme homme ou animal, sont appelés substances secondes. Ils expriment ce que sont les individus, mais ils ne possèdent pas le même statut concret qu'eux. Cette distinction évite deux réductions opposées: traiter l'individu comme une simple occurrence d'un concept, ou faire des universaux des objets séparés sans lien avec les êtres singuliers. Elle éclaire aussi la structure de nos énoncés ordinaires. Une qualité comme blanc, une quantité comme deux coudées ou une relation comme plus grand qu'eux exige d'un sujet auquel elle se rapporte. Aristote ne soutient pas que tout prédicat est accidentel ou négligeable. Il montre plutôt que certains prédicats répondent à ce quest une chose, alors que d'autres peuvent varier sans supprimer son identité. Ce cadre aide à analyser la stabilité et le changement sans les confondre. Il prépare ainsi des problèmes majeurs de la métaphysique aristotélicienne, tout en conservant ici une démarche centrée sur les formes de prédication. Troisièmement, du mot isolé à la proposition susceptible de vérité ou de fausseté, sur l'interprétation prolonge le premier traité en passant des termes aux énoncés. Un nom ou un verbe pris isolément signifie quelque chose, mais ne dit pas encore le vrai ou le faux. La vérité et la fausseté apparaissent lorsqu'une affirmation ou une négation lie ou sépare des éléments, par exemple, lorsqu'on attribue ou refuse un prédicat à un sujet. Aristote analyse ainsi le rôle du nom, du verbe et du discours déclaratif. Son objectif n'est pas de dresser une grammaire complète, mais d'identifier les conditions logiques du jugement. Une prière, un ordre ou une question peuvent être intelligibles sans être pour autant vrais ou faux. Cette limitation est essentielle, la logique ne traite pas indistinctement de tous les usages du langage, mais de ceux qui engagent une prise de position sur ce qui est. Le traité examine également les rapports entre énoncés universels, particuliers et singuliers, ainsi que les oppositions entre affirmation et négation. Ces distinctions formeront un arrière-plan indispensable pour la théorie du syllogisme développée dans les traités ultérieurs de l'Organon. Le texte montre que raisonner exige d'abord de savoir quel type d'énoncé est en jeu, quelle portée possède son sujet et de quelle manière une contradiction peut ou non se produire. La logique aristotélicienne naît donc d'une analyse rigoureuse des actes élémentaires d'affirmer et de nier. Quatrièmement, la contradiction et la portée des énoncés universels, une contribution durable de sur l'interprétation réside dans l'analyse des oppositions entre propositions. Aristote distingue notamment la contradiction. dans laquelle une affirmation et une négation ne peuvent être vraies ensemble ni fausses ensemble. Des formes d'opposition qui ne possèdent pas exactement ce statut. Cette précision interdit de traiter toute différence entre deux phrases comme une contradiction. Elle permet aussi de comprendre pourquoi la quantification modifie profondément le sens logique d'un énoncé. Dire que tout homme est juste ne se contredit pas de la même façon que dire qu'aucun homme n'est juste ou que dire qu'un homme est juste. Les énoncés portant sur le général, sur le particulier et sur le singulier ne se répondent donc pas mécaniquement. Aristote attire aussi l'attention sur les termes indéfinis et sur les pièges produits par la forme linguistique. Un raisonnement peut sembler cohérent tout en reposant sur une mauvaise identification de la négation ou de la portée d'un terme. Pour le lecteur contemporain, ce passage offre une initiation exigeante à une discipline qui demeure centrale dans la logique formelle, identifier précisément ce qui est affirmé, ce qui est nié, et la classe d'objets concernés. Sans employer le symbolisme moderne, le traité établit les exigences intellectuelles dont ce symbolisme cherchera plus tard à systématiser les effets. Sa valeur tient à cette attention aux distinctions minimales qui conditionnent la validité de toute discussion rationnelle. En dernier lieu, les futurs contingents et la limite du déterminisme logique. Le célèbre examen de la bataille navale future donne à sur l'interprétation une portée qui dépasse la technique logique. Si une affirmation sur un événement futur est déjà nécessairement vraie ou nécessairement fausse, il semble que le futur soit fixé d'avance et que la contingence disparaisse. Aristote cherche à éviter cette conclusion déterministe sans abandonner le principe selon lequel une affirmation et sa négation s'opposent. Son analyse invite à distinguer la nécessité de l'opposition logique et la nécessité des faits eux-mêmes, pour un événement contingent. Il est nécessaire que soit l'affirmation, soit la négation soient vraies. Mais il ne s'ensuit pas que l'une des deux soit déjà déterminée de manière nécessaire avant la réalisation de l'événement. Cette argumentation est difficile et a suscité des interprétations divergentes dans l'histoire de la philosophie. Sa force vient précisément de la tension qu'elle expose entre langage, vérité, temps et possibilité. Le texte ne propose pas une théorie moderne des probabilités ni une défense simple du libre arbitre. Il pose plus fondamentalement la question du statut des discours sur ce qui peut arriver autrement. Cette section explique l'influence durable du traité sur les débats relatifs au fatalisme, à la préscience divine et aux modalités. Elle montre aussi que la logique aristotélicienne n'est pas un formalisme détaché de l'expérience, elle interroge les conséquences réelles que nos manières de parler impliquent pour la compréhension du monde et de l'action. En conclusion, ce volume s'adresse en priorité aux étudiants en philosophie, aux lecteurs de logique, aux chercheurs en sciences du langage et à toute personne désireuse de comprendre les instruments conceptuels qui précèdent les grandes doctrines aristotéliciennes. Il convient également aux lecteurs de métaphysique. Car la distinction entre substance et attribut fournit un vocabulaire indispensable pour aborder une large part de cette tradition. La lecture demande de la lenteur, les textes sont courts, mais leur densité repose sur des distinctions dont la portée ne devient claire qu'au fil des exemples et des notes. Le bénéfice intellectuel est considérable. Le lecteur apprend à séparer le mot, le concept, le sujet, le prédicat, l'affirmation, la négation et les différents sens de la nécessité. Ces acquisitions renforcent autant l'analyse philosophique que la lecture critique des raisonnements ordinaires. Par rapport à une introduction contemporaine à la logique, ce livre se distingue par son caractère originaire et par son amplitude philosophique. Il ne réduit pas la logique à un calcul de symboles, il relie la forme des énoncés aux questions de ce qui existe, de ce qui change et de ce qui peut advenir. Par rapport aux autres textes de l'Organon, il expose les éléments les plus fondamentaux avant la théorie explicite de la démonstration et du syllogisme. L'appareil éditorial renforce enfin l'intérêt de cette édition en donnant des repères utiles sans substituer un commentaire au travail direct sur Aristote. Si vous souhaitez soutenir Aristote, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.